Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais continuer aujourd'hui à vous parler de Staline. J'ai abordé à la fin de la première partie ce problème de la Grande Terreur de 1937-1938. Il faut savoir comment ça se passait à l'époque. Lorsque quelqu'un passait devant un tribunal, d'ailleurs il n'avait pas de tribunal, il n'avait pas droit à un avocat, le verdict était secret, même le condamné ne le connaissait pas. Parfois il n'y avait même pas de verdict. Et il y avait des quotas, c'est-à-dire que les gens de la police politique avaient tant de condamnations à faire prononcer en un an, un mois, etc. On ne disait même pas aux familles des victimes que leurs proches avaient été fusillés. On disait, il a été condamné ou elle a été condamnée à 10 ans de camp, sans droit de correspondance, ça voulait dire, mais on l'a su beaucoup plus tard, ça voulait dire que la personne avait été fusillée. Et dans les rues des capitales, en province aussi, il y avait ce qu'on a, les Russes appelaient le corbeau noir, c'est-à-dire cette voiture qui venait chercher les gens. Et beaucoup de Russes, à l'époque, vivaient chez eux avec, à côté de la porte d'entrée, une valise contenant quelques affaires, ce qu'ils pouvaient emporter, au cas où on serait venu les arrêter. Alors évidemment, dans les conditions de vie de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup de dénonciations. le plus habile, et ce qui fait froid dans le dos, lorsqu'on arrêtait quelqu'un, on ne lui disait pas de quoi il était accusé. On lui disait de faire son autocritique, ah, encore un mot très, très pratique. Et le malheureux ou la malheureuse, ne sachant pas de quoi il ou elle était accusé, disait un peu n'importe quoi et finissait, sans le vouloir, par dénoncer d'autres personnes, ce qui permettait, par ricochet, d'arrêter d'autres personnes. À l'époque, un enfant de 12 ans pouvait être condamné à mort. S'il avait 11 ans, il échappait à la peine de mort. À partir de 12 ans, il pouvait être condamné à mort. Et Staline a poursuivi sa folie meurtrière en éliminant notamment une bonne partie de l'état-major de l'armée, notamment en 1937, le maréchal Tukhachevski. Mais aux côtés du maréchal Tukhachevski, il y a 39 généraux qui ont été supprimés, 40 000 officiers. On imagine ce que cela a donné lorsque Hitler a envahi la Russie. Alors, le pays, apparemment, a plongé tout entier dans la paranoïa. Les gens qui étaient en place, ben, être en place, faire partie des dirigeants, des fonctionnaires, avaient d'énormes avantages. D'abord, ils avaient souvent des villas mises à leur disposition, ils avaient des restaurants privés, ils avaient des magasins où on pouvait tout acheter pratiquement, alors que les Russes faisaient la queue pour avoir un bout de pain. Et cette complicité énorme a permis au régime de se maintenir en place. Et nous arrivons à la guerre patriotique de 1941, puisqu'en 1939, Staline signe un pacte de non-agression avec Hitler. Et lorsque Hitler envahit l'URSS, il s'en fait fallu de peu que le pouvoir de Staline bascule complètement. D'abord parce que Staline, jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière extrémité, n'a pas voulu croire à l'invasion de l'URSS par Hitler. Il a été averti. Il a été averti par Churchill. Il a été averti par Richard Sorg, un espion qui était fixé au Japon. Ce n'est pas lui. C'est Molotov qui, le premier, a rallié Moscou, a annoncé que les Allemands avaient commencé à envahir l'URSS. Mais après, lorsque la guerre a vraiment battu son plein, lorsque il y a eu cette fameuse bataille de Stalingrad, Staline est apparu comme, on dit, le Vojd. Alors Vojd, c'est un mot russe ancien qui signifie le chef, le grand chef. Il a été nommé maréchal, et puis comme c'était pas assez, il a été maréchalissime. Et la bataille de Stalingrad, les 27 millions de morts soviétiques pendant la guerre, ont fait que Staline est devenu pratiquement intouchable. C'était le vainqueur de Stalingrad, donc on ne pouvait pas le critiquer, alors que à Stalingrad, on n'a jamais vu Staline. Mais voici, je vous cite, pour donner une idée quand même, les paroles de Dolores Ibárruri, la passionnaria qui a joué un grand rôle dans la guerre d'Espagne et qui était réfugiée à Moscou. Voici ce qu'elle écrivait de Staline. Staline, l'éducateur. Staline, le chef. Staline, le libérateur. Staline, le camarade et l'ami. Le nom de Staline est sur les lèvres des hommes simples de tous les peuples, de centaines de millions de citoyens qui composent la plus grande partie de l'humanité. Il est prononcé avec une piété filiale, avec un amour sans bornes, avec foi et espoir. Je vous citerai aussi deux vers d'un très grand poète, Paul Éluard, qui écrit « Car la vie et les hommes ont élu Staline pour figurer sur terre leur espoir sans bornes. » Je vous propose une première pause musicale. Dans cette atmosphère de fin de règne, au moment où Staline a pratiquement tous les pouvoirs après la Deuxième Guerre mondiale, signalons au passage qu'il a refusé d'échanger son fils, Jacob, qui était prisonnier des Allemands contre le maréchal von Paulus, celui qui dirigeait les armées allemandes à Stalingrad, en disant « Je n'échange pas un lieutenant contre un maréchal ». Staline, à la fin de sa vie, vivait un peu dans le délire le plus total. Dans le délire le plus total, ce qui est étonnant, c'est que sa mort était un peu due à sa propre paranoïa. Que s'est-il passé? Le 5 mars 1953, là où il habite, non pas à Moscou, les gens croyaient qu'il habitait Moscou, en fait, il n'était jamais à Moscou, les gens n'osent pas rentrer dans sa chambre alors qu'il n'a pas donné l'ordre de rentrer. Et lorsqu'enfin, les gens du comité central, appelés au téléphone, osent pénétrer dans la chambre, ils découvrent Staline incapable de parler, victime d'une embolie pulmonaire. Et il mourra quelques heures plus tard. Sa mort a été annoncée le 6 mars par Molotov. Encore Molotov. Et ce qui est étonnant à propos de Molotov, d'ailleurs, c'est que la propre femme de Molotov était dans un camp du Goulag. Elle avait été arrêtée alors que son mari était le bras droit de Staline. Staline aussi a fait école, hein. On peut citer les purges dans le Parti communiste français, puisque après 1950, on a éliminé André Marty, Charles Tillon, Auguste Lecoeur, mais en France quand même, les gens n'étaient pas fusillés. On peut dire, tant mieux pour eux. Et Staline est mort au moment où il allait dénoncer un dernier complot imaginaire, ce qu'on appelait le complot des blouses blanches, c'est-à-dire on accusait des médecins du Kremlin d'avoir voulu empoisonner les chefs du Kremlin. La mort de Staline a sauvé la vie de quelques-uns de ces praticiens, qui avaient été dénoncés d'ailleurs, mais ça, la délation faisait partie un peu du système soviétique, qui avait été dénoncé par une collègue. Et on lui fait à Staline des funérailles grandiose. En France, les monuments publics sont mis en berne. Jusqu'en 1956, au 20e congrès du parti, Nikita Khrushchev dénonce pour la première fois le culte de la personnalité. Alors ce terme, le culte de la personnalité, c'est-à-dire que les choses qui ne vont pas en URSS, c'est parce que Staline avait commis l'erreur de se laisser encenser. On lui reproche du dogmatisme et ce fameux culte de la personnalité qui va servir de nombreuses fois. En 1961, Khrushchev en remet une couche. Il précise la dénonciation du stalinisme. Le corps de Staline, qui avait été mis à côté de celui de Lénine dans le mausolée, est retiré et transporté juste derrière le mausolée où, à ma connaissance, il se trouve toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, on a mis le système en cause. Ça n'avait pas marché parce que c'était la faute de Staline et du culte de la personnalité. C'est quand même très pratique. Toujours cette manie des mots qui évite de réfléchir, on les répète un peu, comme ça, et on finit peut-être, par y croire. D'ailleurs, je rappellerai qu'à l'époque, en 1956, le Parti communiste français n'a pas cru au rapport de Khrushchev. Maurice Thorez disait le rapport attribué au camarade Khrushchev. Tout simplement parce que le Parti communiste français avait appris l'existence de ce rapport par le Monde. C'est quand même assez extraordinaire. Khrushchev, au congrès du parti, du RSS, n'avait pas parlé devant l'ensemble des délégués des pays du monde entier, mais uniquement devant les Russes. Et il a fallu très longtemps pour que le Parti communiste français admette l'existence de ce fameux rapport Khrushchev. Cela dit, le système mis en place par Staline n'a jamais été vraiment dénoncé jusqu'en 1985 à peu près. C'était le silence complet, sans doute pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que, par exemple, Khrushchev ne pouvait guère révéler les crimes de Staline parce que lui-même avait quand même signé beaucoup de condamnations à mort. Sous Brejnev, qui a succédé à Khrushchev, on est revenu, non pas au mythe de Staline, mais on a remis Staline à l'honneur en perfectionnant son système par des internements psychiatriques. C'est-à-dire qu'on ne fusillait pas forcément les gens, on les envoyait dans un établissement psychiatrique. Ce qui était logique, si dans la logique soviétique, quelqu'un qui n'admet pas le système soviétique et comme chacun sait est le meilleur du monde, ne peut être que quelqu'un qui est anormal. Donc quelqu'un qui est anormal, on l'envoie dans un asile psychiatrique pour se faire soigner. On a eu beaucoup d'exemples là-dessus. Il y a eu des cas où on a préféré exiler les gens, les envoyer à l'étranger. Mais en réalité, Khrushchev, en 1956, lorsqu'il a, dans son rapport secret, dénoncé le culte de la personnalité, avait mis le doigt dans un engrenage qui allait aboutir, plusieurs dizaines d'années plus tard, à la disparition du communisme. Ce qui est étonnant, c'est que même sous le dernier grand dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, jamais on n'a remis en question le système soviétique. Et finalement, On peut se demander si Staline, dans l'esprit de ceux qui lui ont succédé, n'était pas quelqu'un de très pratique. On lui mettait sur le dos, on le rendait responsable de toutes les déviations qu'il avait pu y avoir, les populations déplacées, les morts, les famines organisées, les officiers polonais de Katyn exécutés alors qu'on accusait l'Allemagne d'être l'auteur du crime. Finalement, quelque part, Staline était bien pratique et ça permettait aux gens en place de continuer à jouir de leurs privilèges, de continuer à aller dans des magasins spéciaux, de continuer à prendre leurs vacances dans des palais aménagés sur les bords de la mer Noire, de continuer à avoir des gardes du corps, de continuer à avoir des véhicules de fonction dont aucun soviétique normal n'aurait pu rêver. Et c'est peut-être ça le grand mystère de l'emprise que Staline a pu avoir sur son pays et par la suite. C'est-à-dire qu'il y avait finalement beaucoup de gens qui trouvaient un bénéfice à ce système. Et ces gens-là n'étaient pas prêts à lâcher ses bénéfices, ses avantages, pour aller ailleurs, on ne sait trop où. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de Gorbatchev. Gorbatchev, d'abord, a commencé, je ne mets pas en doute sa sincérité, mais il a commencé par utiliser le système un peu mis en place par Staline. Il a parlé de transparence, de perestroïka, autant de slogans, autant de mots qui ont fait se pâmer d'admiration certains penseurs occidentaux. Ah, regardez, Gorbatchev, il ose dire les choses, etc., etc. Et au point qu'en France, on a pu parler de Gorbimania, c'est-à-dire que tout le monde admirait Gorbatchev. Mais en Russie, en URSS, pardon, pour l'époque, personne n'y croyait. On le sait à présent. C'était des mots qui venaient s'ajouter à d'autres mots qui avaient eu leur moment de gloire. Et on savait très bien que derrière, l'essentiel n'avait pas changé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve chez Khrouchtchev, comme chez Gorbatchev, une espèce d'inconscience de la situation réelle du pays. Lorsqu'il a été éliminé, pas physiquement, mais lorsqu'il a été écarté du pouvoir en 1964, Khrouchtchev était en vacances sur les bords de la mer Noire. Il avait quitté Moscou sans se rendre compte qu'on était prêt à l'évincer. Ce qui est étonnant. En 1990, Gorbatchev, lorsque il y a eu une tentative de putsch à Moscou, Gorbatchev était, eh bien, au bord de la mer Noire. Il était dans une villa. Il a d'ailleurs été arrêté un moment par ses gardes du corps. Et il n'a pu regagner Moscou qu'au bout de quelques heures, parce qu'il est arrivé à négocier. C'est cette espèce d'inconscience au plus haut niveau de l'État qui marque la succession des gens, la succession à la tête de l'URSS après la disparition de Staline. Alors peut-être parce qu'on le lit beaucoup, peut-être pourrait-on essayer d'envisager comment est-ce que Staline est perçu aujourd'hui en Russie. Eh bien, il ne faut pas oublier que Poutine est un ancien des organes de la police politique. Il était donc lui-même parfaitement au courant de certaines choses. Et jamais il n'a vraiment condamné Staline, et même il a incité les Russes à se rappeler que Staline avait fait de grandes choses pour l'URSS. Oh, bien sûr. On a changé les noms. On dit plus, on ne parle pas d'antisémitisme. On parle de sionisme. C'est-à-dire, les gens qui soutiennent les Juifs, qui sont tirés des sympathies pour les Juifs, en réalité sont des soutiens d'Israël. Question de vocabulaire. Mais c'est moins, ça sonne mieux à l'oreille, sionisme, que antisémitisme. Et si vous avez la curiosité de regarder certaines manifestations de soutien à Poutine, on voit de plus en plus de portraits de Staline. Et il y en a un qui m'a particulièrement frappé lorsque je l'ai vu sur Internet. On voyait un Russe anonyme qui brandissait un immense portrait de Staline, c'était en 2014, qui brandissait un immense portrait de Staline avec inscrit protecteur de la Sainte Russie. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que quelque part, Staline a gardé cette espèce d'aura de sauveur, de patriote, de protecteur de la Russie. Parce que Staline adorait être considéré comme le petit père des peuples. En plus, le terme Sainte Russie, c'est quand même éminemment un terme religieux. Comprenne qui pourra. Mais je voudrais évoquer, pour conclure, moi, rapidement, avec un sujet aussi vaste, évoquer la vie des écoliers soviétiques sous Staline. Bon, d'abord, ils avaient obligatoirement des cours de marxisme-léninisme. Ça, c'était obligatoire. Mais ensuite, ils devaient étudier le plus profondément possible la biographie de Staline mise en vente à leur intention. Inutile de vous dire que si vous relisez cette biographie de Staline, ce qu'on s'appelait la petite biographie de Staline. Si vous lisez cette biographie, c'est bourré de contresens, de contre-vérités, mais les écoliers n'avaient pas le choix. S'ils voulaient un jour accéder à une place quelconque, ils devaient le connaître, et si possible par cœur. Alors, je voulais simplement vous signaler que j'ai sous les yeux là une biographie, une des petites biographies de Staline, qui a été rééditée en 1949. C'était une deuxième édition. Et cette deuxième édition a été tirée à 4 875 000 exemplaires. Ce qui veut dire que l'édition précédente, épuisée, avait été tirée au moins à 5 millions d'exemplaires. J'ai vu aussi des manuels de l'époque, ce qu'on appellerait nous des abécédaires pour apprendre l'alphabet, tout bêtement. Et quand vous ouvriez cet abécédaire, en page de garde, vous avez un portrait de Staline. Alors, évidemment, aucun des successeurs de Staline n'a réussi à être aussi adulé que Staline. Même si Brechnev, par exemple, un détail qui me semble intéressant, si Brechnev, alors qu'il était déjà plus ou moins très diminué physiquement, a obtenu le prix Lénine de littérature, il faut oser le faire, pour les souvenirs dont tout le monde savait que ce n'est pas lui qui les avait écrits. Alors, y a-t-il des leçons à tirer de l'aventure de Staline en URSS? Personnellement, je crois que oui, mais libre à chacun de juger. Je vous remercie de m'avoir écouté.
черные, пути пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Я бы прожил жизнь, улыбаясь. Вы загубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.